Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Où que vous soyez dans le monde, merci encore une fois d'avoir pris la peine de vous joindre à nous pour cette téléconférence trimestrielle, donc qui porte sur la région Afrique. Encore une fois, s'il vous plaît. Et encore, merci de donc, il s'agit d'une téléconférence trimestrielle donc, qui comprend les chapitres africains. Nous avons donc un ordre du jour ambitieux aujourd'hui. Je vais donner la parole à Joyce Agnès, la vice-présidente de l'Environnement des communautés, concernant les nouveaux membres individuels. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. La bienvenue après 200 membres en Afrique. Nous vous souhaitons la bienvenue. Sur ce, accordez la parole à Joyce afin qu'elle puisse introductive. Bonjour à tous. Je vais faire quelque chose que les interprètes ne vont pas apprécier.
Pour vous dire bonjour en français également, je sais que vous avez l'interprétation qui se passe sur l'autre canal, mais je voulais quand même faire un petit bonjour en français pour tous les francophones qui sont sur cet appel.
De participer à cette téléconférence avec vous tous. La région donc de l'Afrique me tient à cœur. Je suis ravie aussi donc des nouveaux développements en Afrique. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est que nous estimons que nous voulons vivre dans un monde où l'Internet représente une opportunité. En 2019, en collaboration avec le conseil d'administration, l'ISAC a mis au point une stratégie quinquennale qui se concentre sur notre objectif stratégique, à savoir appuyer un Internet ouvert, sécurisé, accessible pour tous. La stratégie jusqu'à 2025 s'articule autour de trois piliers. Donc, il s'agit de renforcer, promouvoir et sécuriser l'Internet. Mais pour cela, nous devons trouver une solution à la fracture numérique. Nous voulons que chacun puisse avoir accès à Internet, sachant que nous vivons dans un monde interconnecté. Internet joue un rôle crucial pour faciliter l'accès à des opportunités infinies. Ceci n'est pas le fruit du hasard. L'Internet, à travers le renforcement de sa résilience, donc, s'appuie sur une architecture ouverte, en libre accès. Maintenant, pour que l'Internet soit plus fort, nous plaidons en faveur d'une meilleure résilience de l'Internet. Nous voulons défendre l'Internet contre les personnes donc, qui essayent de le rendre moins résilient et fermé. Dans le cadre de notre stratégie quinquennale, nous avons rassemblé les informations et les données portant sur ce que nous avons accompli. Et ce sont ces résultats que nous allons partager avec vous. Je souhaiterais quelques-uns de nos accomplissements. Et je vous invite également à lire le rapport complet qui a été mis en ligne. Et car il s'agit d'un effort collectif et vous avez tout un chacun joué un rôle important dans ces avancées. Nous engageons à faire en sorte d'avoir 50 communautés supplémentaires qui pourraient donc profiter de cette stratégie. Nous voulons renforcer la connectivité, renforcer notre réseau communautaire. Comme vous le savez, nous avons donc 10 pays concernés en Afrique. Nous voulons également renforcer l'IXP en Afrique et dans d'autres continents. Pour la promotion, on a trois objectifs principaux. D'abord, il s'agit de garantir que d'ici 2025, le modèle de réseautage ou de fonctionnement de l'Internet soit généralisé, comprendre quel est le modèle de fonctionnement préféré et assurer une meilleure autonomie des réseaux. Nous avons aussi des réseaux partagés, améliorer le flux de données et assurer le déploiement. Ensuite, d'ici 2025, les gouvernements, les dirigeants du monde adopteront des politiques en faveur d'un meilleur modèle d'Internet et assureront une meilleure connectivité d'Internet. Nous avons six gouvernements qui ont adopté une politique en faveur d'un meilleur modèle de fonctionnement d'Internet et un modèle qui permet d'améliorer la connectivité d'Internet. Il s'agit notamment du Kenya et du Zimbabwe en Afrique. Le troisième objectif est que d'ici 2025, les technologies de la sécurité promues par l'ISOC apporteront une meilleure résilience, une stabilité, une meilleure disponibilité, une confidentialité et intégrité pour les réseaux. Maintenant, je vais être quelque peu technique en utilisant quelques sigles. Je vais tenter au moins de vous les expliquer. Donc, les technologies qui m'intéressent, donc, et le protocole V6, le TLS, la sécurité du nom de domaine, DNSSEC, les autorisations de la règle d'origine, et que l'ORV, nous aimons bien les éponymes. Pour les années 2021 à 2022, nous voulons nous concentrer donc, sur la défense d'Internet. Dès 2025, les gouvernements du monde auront adopté une politique qui permettra le renforcement des réseaux communautaire pour assurer l'interconnectivité. Plus de huit gouvernements ont adopté de telles politiques à présent. Le deuxième objectif est que d'ici 2025, nous puissions faire en sorte de faire un plaidoyer auprès de trois gouvernements pour lutter contre les mesures qui sapent l'accès à Internet. Nous avons pu dépasser notre objectif initial et dans le contexte africain, des efforts de plaidoyer ont porté leurs fruits auprès de ces gouvernements. Le dernier objectif, et pas des moindres, nous voulons aussi donc lutter contre les coupures d'Internet en améliorant la connectivité transfrontalière et la résilience. Donc, comme je l'ai indiqué, un autre objectif également qui vise à améliorer l'interconnectivité et améliorer les réseaux communautaires dans près de 49 pays. En 2021, nous avons aussi pu faire un suivi de la résilience à travers des indicateurs qui sont mis en place concernant la performance de l'infrastructure, la sécurité et la disponibilité de cette infrastructure. Je vous invite à consulter donc le document dont le lien sera transmis dans la messagerie. Nous avons constaté des avancées positives pour la concrétisation de nos objectifs d'ici 2025 et c'est grâce à vous que nous avons pu atteindre ces objectifs. Donc, il est nécessaire d'améliorer l'accessibilité et la mise à disposition d'un Internet ouvert. Constater l'importance d'Internet en particulier pendant la pandémie. Je souhaiterais vous remercier pour votre engagement, votre implication continue. Sans vous, on ne peut pas parvenir à ces résultats. Je souhaite vous remercier pour votre appui. C'est à vous, Victor. Merci beaucoup, Joyce. Donc, avoir vos contributions, donc tous ces accomplissements sont dus à cet effort collectif. Et c'est pourquoi maintenant nous allons lancer le sondage. Il s'agit donc de lutter contre le morcellement d'Internet. Pourquoi est-ce que ce morcellement de l'Internet nous inquiète? Question valide. Les gouvernements continuent de prendre des décisions qui tapent le mode de fonctionnement d'Internet sans forcément en être conscient est l'une de nos inquiétudes et que, notamment lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, et je souhaiterais présenter mes excuses auprès des personnes qui sont touchées par les affres de ce conflit. Du point de vue donc de l'Internet, il y a donc un impact. Lorsque certains pays proposé de déconnecter donc les réseaux, ce qui nous a inquiétés et que on a constaté que certaines des sanctions justement pesaient sur l'internet de la Russie. Donc l'on pourrait se demander ceci ne nous concerne pas. Donc comment est-ce que ceci pourrait affecter la façon dont j'utilise internet? Le problème est que si l'on commence à prendre ce type de décision drastique sur qui peut avoir accès à internet, et ceci pourrait lancer des précédents assez graves. Une politisation donc de l'internet pourrait créer des coupures d'internet dans d'autres régions du monde. Il y a eu donc des tentatives pour déconnecter la Russie. Et nous pensons donc que si ce se concerne la Russie aujourd'hui, d'autres pays pourraient être cibles de telles coupures à l'avenir. Donc le morcellement de l'internet est une problématique qui pourrait toucher d'autres pays dans le monde. Et ceci est une véritable inquiétude. Je suis actuellement au Canada, mon collègue Dawit se trouve en Éthiopie. Nous avons aussi d'autres collègues à Genève, mais Internet ne connaît aucune frontière. Et c'est pourquoi il est facile pour nous d'être réunis ici aujourd'hui et de discuter de ces problématiques importantes. Le Internet ou le morcellement d'Internet pourrait justement rendre compliqué la façon dont nous allons communiquer et fragmenter l'Internet en de multiples réseaux qui ne fonctionneraient, qui ne fonctionneraient pas correctement. Je ne pourrais pas, par exemple, donc, procéder à un partage de documents pour y travailler avec mes collègues qui se trouvent dans d'autres pays ou partager certains outils. Donc, il s'agit de décisions qui pourraient avoir un impact sur une partie de l'Internet ou alors avoir un impact grave sur le reste des utilisateurs. Et si nous n'agissons pas dès maintenant, nous risquons justement ce morcellement, cette fragmentation de l'Internet. Diapositive suivante. Voici quelques causes qui peuvent provoquer donc ce morcellement. Donc il y a différentes voies qui pourraient justement nous mener à cette fragmentation et une fragmentation qui pourrait adopter diverses formes. Récemment, nous avons constaté une tendance qui nous inquiète. Il s'agit d'abord donc de la coupure d'Internet. Les gouvernements essaient de déconnecter les réseaux sur son territoire, et ceci a des conséquences graves sur les citoyens, et ceci crée un écart entre le réseau dans la région et le reste d'Internet, et ceci pousse au morcellement d'Internet. Deuxièmement, comme nous l'avons constaté avec la guerre en Ukraine, des décisions politiques pour la déconnexion de certains individus d'Internet, et donc lorsque les gouvernements justement, c'est un motif politique pour justement déconnecter les infrastructures d'Internet. Ceci, justement, aboutit au morcellement de l'Internet et cette coupure du reste du monde. Et enfin, la troisième catégorie qui provoquerait la fragmentation est donc lorsque les décisions prises par le gouvernement ne protègent pas Internet. Et il s'agit donc du mode de fonctionnement de l'Internet, modèle commercial d'Internet. Et celle-ci constitue donc les raisons de cette fragmentation de l'Internet. À chaque fois qu'une décision est prise par le gouvernement ou par le privé, où l'on choisit justement de ne pas protéger les internautes, et ceci donc pousse progressivement à une fragmentation de l'Internet. Pourquoi est-ce que ceci est important? Comme je l'ai déjà indiqué, Internet, justement, nous permet de communiquer les uns avec les autres sans interruption. Si vous faites partie de ceux qui ont de la chance, vous pouvez avoir donc une vitesse de téléchargement satisfaisante. Et la fragmentation d'Internet rend les choses compliquées. Ceci risque justement de mettre à mal décennies d'efforts qui ont été déployés pour aboutir à ce stade. Ceci pourrait aussi justement modifier notre expérience quotidienne sur Internet et voir qui pourra contribuer ou profiter de cette ressource universelle. Il y a aussi de la consultation de courriels, la consultation des réseaux sociaux, et qui pourraient être affectés justement par ce morcellement. Ceci pourrait toucher aussi les économies nationales, les échanges, y compris les efforts humanitaires. Et plus encore, diapo suivante. Diapo suivante, merci. Donc, comment pouvons-nous arrêter l'Internet? Non, excusez-moi. Comment pouvons-nous mettre fin à cette fragmentation? Nous avons le manuel de l'Internet Society. Joyce a d'ailleurs présenté quelques-unes de nos initiatives, mais nous avons notre propre manuel pour justement traiter de cette question de l'angle du plaidoyer. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous appuyer. Joyce l'a très bien dit au début, nous avons besoin de vous pour justement provoquer un meilleur impact positif de l'Internet. Je vais donc vous présenter brièvement notre manuel, si vous voulez, comment vous pouvez également contribuer. Donc, notre approche de plaidoyer s'articule autour de quatre étapes. Tout d'abord, il s'agit de signaler les enjeux ou les problématiques qui pourraient donc porter atteinte à l'Internet. Ensuite, nous procédons à une analyse de cet impact, comprendre ce qui doit être mis en place. Et ici, il s'agit de protéger le mode de fonctionnement d'Internet. Il faut comprendre aussi ce qui peut saper le modèle de fonctionnement d'Internet et pouvoir communiquer avec les décisionnaires afin de comprendre l'impact sur l'Internet global.
Troisièmement, une fois que vous avez compris l'impact que vous pouvez avoir par la stratégie choisie, vous cherchez à atténuer cet effet et on vous accompagne à la protection de l'Internet en formant une stratégie pour atteindre cet objectif. Enfin, étant donné qu'ensemble nous sommes plus forts, nous cherchons à travailler conjointement avec les communautés. Pour avoir un rayon d'action plus grand, puisque ensemble nous pouvons avoir un effet de protection de l'Internet sur le monde entier. Donc, il faudrait mettre en place des opportunités pour que chacun s'implique, toutes les communautés s'impliquent. Et du côté de la protection de l'Internet, il nous faut nous mettre en relation avec les communautés d'utilisateurs, parce qu'ensemble, nous pouvons être plus forts. Par exemple, vous pouvez identifier des sujets qui peuvent avoir un impact sur l'Internet, et c'est d'ailleurs en train d'être fait par plusieurs parties prenantes. Vous pouvez, par exemple, souligner que telle ou telle décision régionale peut avoir un effet négatif sur l'Internet. Et si vous nous le faites savoir, nous pouvons ensemble réfléchir sur l'impact potentiel et comment nous pouvons ensemble chercher à en diminuer les effets négatifs. Donc, un certain nombre de sections ou de chapitres travaillent ensemble et ils ont identifié certaines questions avec l'outil que nous leur mettons à disposition, la boîte à outils d'évaluation de l'impact. Ils peuvent analyser cet impact et comment cet impact se fait et comment, avec les décideurs, ils peuvent avoir un dialogue pédagogique sur la manière de limiter les effets. Bon. Ensuite, il nous faut voir quelles sont les stratégies en place qui nous permettraient de mener un plaidoyer de protection pour l'Internet. Une fois que vous avez donc identifié une question, une menace potentielle, vous pouvez aussi réfléchir à votre stratégie propre et vous pouvez chercher à tirer parti des opportunités existantes sur le terrain pour cette protection. Enfin, la mobilisation de la communauté permet d'amplifier l'impact de nos travaux. Des campagnes se font, des campagnes de sensibilisation sur cet Internet morcelé ou ce Splinternet. Et enfin, nous pouvons au niveau régional aussi aborder des questions qui nous sont propres. Et ce sont des opportunités multiples qui existent, qui permettent d'amplifier les impacts et à amplifier vos propres initiatives et vos propres campagnes. Donc, c'est un point de vue où, je dirais, un cliché de ce qui existe au niveau mondial, de pourquoi nous avons besoin de protéger l'Internet, pourquoi travailler ensemble, pourquoi et comment le faire et quels sont les moyens de s'impliquer dans ce travail. Et je suis heureuse de voir l'intérêt suscité par cette discussion, parce que nous tous qui sommes là avons notre partie à jouer dans la promotion de cette question, de devenir des personnes de confiance pour mener cette campagne. Je vous remercie. Merci, Nathalie. Nous comprenons donc mieux, grâce à cette présentation, pourquoi nous avons besoin de protéger l'Internet. Aujourd'hui, nous avons cette question qui est de plus en plus présente. C'est le morcellement de l'Internet, la manière de comprendre le monde numérique des usagers peut aussi nous amener vers cet Internet qui se fragmente. Et donc, je vais passer par la parole maintenant à ma collègue Virenka, qui nous parlera de la souveraineté numérique et sa compréhension. Je vous remercie, Virenka. Vous pouvez partager votre écran. Merci, Victor. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Je vois beaucoup de visages et de noms familiers, et je suis très heureux d'être parmi vous et de me mettre en relation grâce à ces discussions importante avec vous. La croissance de l'Internet et sa protection, ce sont des sujets importants et c'est un plaisir que de le partager avec vous. Donc, encore une fois, Mahimbinga est mon nom. Je suis conseiller en matière de politique en Afrique et je suis aujourd'hui au Zimbabwe, à Harare. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous suivons de près, qui a le potentiel, je pense, d'aggraver la question que ma collègue Nathalie a abordée, l'Internet morcelé. Donc, Nathalie nous l'a dit, nous voyons de plus en plus les autorités publiques, un certain nombre d'entre eux, mais aussi certaines organisations privées et d'autres, qui prennent des décisions qui pourraient compromettre la manière dont l'Internet fonctionne aujourd'hui. Et je pense que c'est une question importante pour notre communauté. Nous devons garder un œil sur ce sujet, avoir les yeux ouverts, et nous devons chercher à trouver de nouveaux moyens pour protéger la manière dont l'Internet fonctionne. Passons à la diapositive suivante. Cette année, nous avons initié un projet de recherche appelé Souveraineté numérique. J'aimerais d'ailleurs inviter tous les collègues qui sont présents aujourd'hui à suivre ce projet et à contribuer des idées, parce que certains aspects de la souveraineté numérique aujourd'hui peuvent amener à un morcellement plus grand de l'Internet. Comme vous avez certainement entendu certaines discussions et mesures prises par les autorités publiques au nom de la souveraineté numérique, vous êtes certainement conscient de ce sujet. Donc, c'est dans notre région, en Afrique surtout, des déclarations de nature politique de nos ministres, des représentants gouvernementaux, font des déclarations dans ce sens avec l'objectif d'aller vers une souveraineté plus grande dans le monde numérique. Cette idée et ces discussions, nous les suivons aussi en Chine et dans d'autres endroits du monde pendant les dernières décennies. La cybersouveraineté, comme elle se manifeste elle-même. Vous connaissez certainement l'initiative chinoise du pare-feu géant. Et dans les dernières années, d'autres régions sont touchées par ce type d'initiative. Des stratégies régionales et continentales se mettent en place qui vont dans ce sens. Tout récemment, nous pouvons citer l'initiative de l'Union africaine d'il y a 2 ans, la stratégie de transformation numérique qui est un plan de 10 ans qui court de 2020 à 2030. Il est fait mention dans cette stratégie de la possibilité d'aller vers une plus grande souveraineté numérique. Et nous voyons donc un intérêt plus vif sur ces questions se manifester, sur ce concept. Et nous pensons que nous devons suivre ces sujets de très près en tant que communauté. La souveraineté numérique peut parfois se manifester par des efforts d'élaboration de politiques qui ont un impact au niveau local. Par exemple, la localisation des données peut être citée à contribuer à cet esprit de souveraineté. Alors que dans d'autres lieux, ça peut donner lieu à un partage d'infrastructures. Ailleurs, ça peut être aussi renforcer la compétition entre les fournisseurs au niveau local. Donc, chacune de ces initiatives doit faire l'objet d'une évaluation attentionné pour savoir si ces projets n'ont pas le potentiel d'avoir un effet négatif qui amènerait un plus grand morcellement de l'Internet tel que Nathalie nous l'a présenté. Donc, si nous regardons de plus près ce qui se passe dans nos régions et en termes de projets, nous voyons que je parle alors de trois régions, la région de l'Afrique, l'Asie, du Pacifique, puisque l'Europe est considérée comme une région de l'Internet ainsi que l'Afrique. Je voudrais partager avec vous certaines des observations initiales que nous avons conduites grâce à ce projet. Nous avons noté que la souveraineté numérique aujourd'hui a une définition très différente selon la personne qui donne cette définition. Par exemple, la souveraineté telle que définie par les autorités publiques n'est pas la même que par rapport aux autres, et nous nous allons concentrer sur cette définition prise en compte par les États. Nous avons plusieurs définitions, plusieurs noms qui circulent: souveraineté technologique, souveraineté de l'information, souveraineté de l'Internet ou cybersouveraineté. Ce sont quelques-uns de ces termes que vous allez certainement rencontrer. Dans la plupart des cas, ces définitions se retrouvent dans des législations ou des politiques. Et c'est le cas aussi, c'est le cas souvent en Afrique, des politiques se mettent en place. Même si ces politiques ne sont pas en grand nombre, nous notons cependant un intérêt plus grand des décideurs politiques, des premiers ministres et chefs d'État à utiliser ces termes. Vous avez certainement noté que le président sénégalais, la semaine dernière, a souligné qu'il nous faudrait localiser les données sur des serveurs locaux pour promouvoir la souveraineté numérique. Pour l'Afrique, il semblerait que ce concept est comme une extension de la souveraineté nationale. Ce n'est pas une surprise pour la plupart d'entre nous. La plupart de nos pays sont des ex-pays colonisés, sans doute à part l'Éthiopie. Et le maintien de cette souveraineté est considéré comme crucial pour la plupart de ces pays. Donc, c'est une tendance qui va du contrôle de leur territoire jusqu'à s'assurer que l'Internet qui est utilisé sur ce territoire est géré par les autorités publiques. Donc, est-ce que cela a un effet sur les principes fondamentaux de l'Internet? C'est le sujet qui doit nous intéresser et nous aurons certainement des défis à cet égard à l'avenir. Dans cette discussion, nous devons examiner ce sujet avec l'angle de surveiller l'impact sur cette façon de fonctionner de l'Internet. Et nous devons donc vérifier si les décisions et les politiques qui sont élaborées ensemble ou individuellement n'ont pas un impact sur la collectivité et l'ouverture et la confiance que nous avons par rapport à l'Internet. C'est notre mission. C'est donc une discussion importante que nous devons continuer à avoir. Permettez-moi de partager rapidement avec vous certaines des tendances politique que nous observons à travers ces trois continents. Et nous allons les organiser selon des thèmes ou des archétypes que nous avons identifiés. Avant tout, les premières ébauches de recherche que nous avons faites, c'est que nous avons noté que les autorités publiques parlent de souveraineté numérique avec l'objectif à atteindre certains jalons. Premièrement, il vise à promouvoir la protection de l'économie ou au moins permettre aux entreprises nationales et locales d'être plus compétitives dans cet espace. Les autorités publiques donc peuvent être tentées à élaborer des politiques qui le permettent. Cela peut avoir un effet sur la stabilité ou la solidité générale de l'Internet. Dans d'autres pays, les buts recherchés seraient d'ordre sécuritaire. Ça peut être un texte de loi ou une mesure prise par les forces de sécurité qui soit contraignant. Donc certaines politiques ou certaines demandes formulées par ces autorités peuvent tomber sous cette définition. Nous avons vu ces tendances au Nigeria, à l'île Maurice. Parfois, la discussion peut viser à la protection des usagers et des citoyens. La sécurité nationale, la cybersécurité peut avoir aussi un effet lorsque nous discutons de ces sujets comme objectif recherché par cette souveraineté nationale numérique. Donc, ces différentes discussions peuvent avoir un effet et nous devons donc les suivre de près. Je voudrais donc, conclure mon intervention d'aujourd'hui, résumer en disant que les autorités publiques trouvent aujourd'hui des raisons de plus en plus nombreuses pour contrôler l'Internet et cela sous le label de la souveraineté numérique. Il nous faut donc regarder de près ces tendances et développements. Enfin, je voudrais, dans ma dernière diapositive, vous inviter à vous mettre en relation avec nous. Nous aimerions avoir vos contributions. Si vous voulez en apprendre plus de ce projet, c'est possible. Nous aimerions avoir une interaction plus vive sur ces questions de souveraineté numérique et nous espérons que grâce à cela, nous pourrons avoir certaines informations et idées pour avancer sur le sujet. Je vous remercie. Merci Valenka, merci Nathalie, merci pour l'introduction donnée à ces deux discussions, à ces deux sujets. Je voulais simplement faire une observation rapide sur le speed internet ou l'internet morcelé et sur la souveraineté numérique dont nous avons parlé. Le concept de souveraineté numérique nous vient sans doute du questionnement que nous avons par rapport à l'Internet mondial. Est-ce que cela amène au public? C'est sans doute de cette manière que réfléchissent nos autorités publiques. De mon point de vue, il nous faudrait réfléchir sur la manière de faire bénéficier les populations, les communautés de l'Internet et de mettre en lumière ses avantages. En soi, la discussion n'est pas mauvaise, à moins que cela ne déborde d'un cadre bien précis et aille vers un morcellement de l'Internet et que cela n'amène certains à prendre la décision de se couper de l'Internet mondial et d'avoir leur propre réseau. Par exemple, il y a quelques années, nous discutions de l'élaboration du trafic du contenu local. Et nous avions vu que les échanges avec l'Internet mondial étaient de 20 à 80 comme ratio, c'est-à-dire le contenu venant de l'extérieur de l'Afrique et qui était consommé en Afrique était à hauteur de 80%. Donc, en regardant ce trafic, des idées telles que la souveraineté numérique peuvent advenir et les politiques et les discussions se sont alors de plus en plus concentrées sur le fait de s'écarter peut-être de l'Internet et de construire une infrastructure propre pour vos propres usages et vos propres besoins. Et donc, pour le dire en une phrase, je dirais que sur les deux questions qui ont été posées, nous devons intégrer dans nos discussions les décideurs politiques, tels que les parlementaires, les parlements eux-mêmes, pour s'assurer que non seulement nous les incluons dans ces discussions, mais aussi pour que des structures permanentes se mettent en place, que nous pourrons à l'avenir aussi utiliser pour protéger l'Internet, pour des questions relatives au speed Internet ou d'autres. Les décideurs politiques, parfois, prennent des décisions sans être dûment informés par ignorance des questions techniques sont sous-jacents à ces questions. Nous avons donc besoin d'informer, d'éduquer les parlementaires et les décideurs de politique pour qu'ils soient demain en meilleure position pour défendre l'Internet et non seulement l'Internet, mais aussi la manière de fonctionner l'Internet, c'est-à-dire l'idée que les concepteurs initiaux de l'Internet avaient en tête en lançant le réseau. Merci, merci. Merci, Victor. Merci à tous les participants qui êtes présents à cette interaction très importante. Merci, Nathalie. Merci, Verenga, pour ces présentations très instructives. La session à venir va se pencher sur ces deux thèmes. Nous avons des participants qui nous viennent de plusieurs communautés. Cette réunion virtuelle a comme objectif justement de discuter ces sujets. C'est une part importante de notre réunion. Nous avons un certain nombre de panélistes. Je pense qu'ils sont au nombre de 5. Le premier panéliste est Bengue Maoreke. Sans doute que ma prononciation n'est pas la bonne. Je m'excuse pour cela. C'est la présidente de la section du Lesotho et qui travaille avec l'ISOC depuis un certain temps. Deuxième panéliste, et je suis d'ailleurs heureux de voir que les dames sont bien représentées dans notre panel. C'est une personne très compétente que nous avons et qui est avec nous depuis un certain nombre d'années. C'est Monte Achung Kenyon, qui est la présidente de la section du Ghana et qui enseigne à l'université des études professionnelles de Accra au Ghana. Nous avons Ernest Mafuta en troisième, qui est le président de l'organisation Accès abordable de l'Internet, qui est aussi un membre expert de l'autorité de réglementation de la Zambie. Le quatrième panéliste est Harold Achofio, qui est membre de la section du Bénin de l'ISOC, qui est un ingénieur et qui a travaillé en tant que consultant les 10 dernières années. Enfin, nous avons Emmanuel Ogo, qui est un membre actif de la section du GIA de l'ISOC, qui est lui-même un informaticien qui mène un plaidoyer pour la liberté et les droits numériques avec Emmanuel. Nous avons mené certains travaux qui sont en lien avec la discussion d'aujourd'hui. Avant de commencer la discussion en elle-même, j'aimerais dire quelques mots sur ce qui vient d'être présenté par Nathalie Varenga. Souvent, nous pensons qu'il y a certaines choses qui sont acquises, l'eau, l'électricité, etc. Ce sont des choses que vous pensez que vous aurez pour toujours et à moins et jusqu'au jour où ces services ne vous sont plus rendus. En Afrique, nous connaissons très bien ce sentiment. Si je demande parmi ces participants, combien d'entre vous avez fait l'expérience de problèmes d'électricité ou de réduction en eau, beaucoup d'entre vous connaissez cela. Est-ce que vous pensez à ces problèmes avant qu'ils ne se produisent? Avant qu'il ne se produise, vous pensez que cela ne se produira sans doute jamais. Et ça se produit. C'est la même chose pour l'Internet. Aujourd'hui, nous avons l'Internet au niveau mondial. Nous pouvons discuter sans difficulté entre nous, sans écueil, jusqu'au jour où nous ne serons plus en mesure de le faire. Et ce jour-là, ce sera difficile de changer les choses puisqu'elles se sont déjà produites. C'est pourquoi nous pensons à l'Internet, à l'ISOC, que nous devons agir en prévention et non pas agir une fois que ces choses se sont passées pour corriger le tir, puisque corriger cette trajectoire une fois qu'elle s'est produite sera difficile. Donc, l'ISOC en tant qu'organisation, mais aussi toute la communauté des usagers d'Internet doit travailler pour cela. L'Internet est devenu quelque chose d'important dans nos vies. Nous voulons que l'Internet fonctionne tel qu'il a fonctionné pendant la dernière décennie. Et nous espérons que les générations à venir pourront profiter de cet Internet comme nous l'avons fait. Donc, sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à nos panélistes pour qu'ils disent quelques mots sur ce sujet. Peut-être que chacun peut prendre 2 minutes pour partager des réflexions sur ce thème. Et nous pourrons ensuite avoir une session interactive de questions et de réponses. Permettez-moi de passer la parole avant tout, à Itak Mbele, qui entamera cette série de présentations. Merci de m'avoir invité. L'Internet morcelé ou le Splinternet est une possibilité qui est effrayante. Notre pays, qui est un petit pays, qui a quasiment fait l'expérience d'une possibilité de modération ou d'un censure de l'Internet, censure de la possibilité pour les personnes d'accéder à certains contenus sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et je suis donc heureuse de participer à cette discussion puisque c'est quelque chose qui nous touche de près. Alors, ensuite, nous avons Maud.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour discuter donc de cette problématique. Je souhaiterais évoquer donc la perspective de mon pays. Et comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous devons donc traiter de cette situation avant qu'elle ne s'empire. C'est pourquoi nous devons justement avoir cette discussion et trouver une solution dès maintenant. Merci. Merci. Prochain intervenant, Ernest. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un problème de connexion. Oui, nous vous entendons, Ernest. Très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de cette réunion et de discuter de ce sujet. À mon avis, il s'agit d'un problème mondial, même si n'affecte pas directement mon pays, mais je pense que chacun a un rôle à jouer afin de limiter les dégâts. Je me souviens que l'année dernière, lors des élections, il y a eu les premières restrictions d'Internet et c'était donc une expérience inédite pour moi et pour les autres jeunes dans mon pays. Nous ne voulons pas que ceci se reproduise. Et je pense que ces réunions, justement, permettent de lutter contre ce phénomène et que nous puissions justement discuter de ça pour voir comment nous pouvons trouver des solutions ensemble pour éviter donc que ces coupures d'Internet ne se reproduisent. Merci, Harold.
Bonsoir à tous. Harold Adjiambo, je suis le président du chapitre Benin Internet Society et permettez-moi de pouvoir m'exprimer en français. Donc, nous sommes ravis de faire partie de ce panel au niveau du chapitre du Bénin, car la question aujourd'hui qui concerne les différentes coupures qu'on a eu à recenser en Afrique et principalement chez nous au Bénin. Et tout ce que nous avons eu à mettre en place pour lutter, prévenir contre cela, est pour nous un gage de continuité et nous serons ravis de partager ces expériences et bien sûr de susciter différentes questions pour voir quelle serait une méthode commune à tous au niveau mondial pour lutter contre cela, pour prévenir cela et bien sûr maintenir un Internet ouvert. Merci.
Enfin, Emmanuel. Oui, Dawit, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je suis au Nigeria. Concernant la fragmentation d'Internet et la souveraineté, il s'agit donc d'une problématique importante au Nigeria. Au cours des quelques mois, nous avons eu donc une coupure pendant 7 mois l'année dernière. Récemment, nous avons également donc l'autorité chargée de l'information au Nigeria qui a imposé donc certaines restrictions et des politiques réglementaires qui portent atteinte justement à la souveraineté. Donc, ceci est une véritable inquiétude. Toutes ces questions des droits numériques, la lutte contre les discours haineux et du radicalisme et de l'extrémisme violent. Donc, ce sont des préoccupations importantes dans notre pays et nous savons que d'autres restrictions donc seront imposées au cours des prochaines élections. Donc le gouvernement a choisi donc de mettre en place cette réglementation assez stricte et qui touche à la souveraineté de l'Internet. Et le mode de fonctionnement d'Internet justement est en péril dans notre pays et ceci pourrait provoquer une perturbation du mode de fonctionnement de l'Internet. Donc, ce sont des questions importantes que nous essayons de traiter au Nigeria et nous continuons de promouvoir une approche et qui impliquerait plusieurs parties prenantes et créer cet espace de façon à ce que le mode de fonctionnement d'Internet ne soit pas mis en danger. Merci. Maintenant. Donc, j'ai une autre question, donc, qui porte sur cette fragmentation d'Internet. S'il y avait cette fragmentation d'Internet demain, dans quelle mesure est-ce que ceci affecterait votre communauté? Que vous nous indiquiez également certains événements qui pourraient se produire à l'échelle locale et qui pourraient justement provoquer cette fragmentation de l'Internet. Quel sera donc l'impact de la fragmentation de l'Internet si celle-ci devrait se produire demain? Donc l'impact sur votre communauté? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre contexte local qui pourrait justement concrétiser cette fragmentation de l'Internet? Nous allons utiliser le même ordre que tout à l'heure. Donc, on va commencer par Inta Baleng, que vous pouvez commencer. Ensuite, nous aurons Maud, Ernest, Harold et Emmanuel. Merci pour notre part. Voulons donc qu'il y ait une meilleure appréciation de l'utilisation d'Internet et que les bienfaits de l'Internet soient saisis. Donc, la fragmentation de l'Internet nous fait régresser. au cours de la pandémie de COVID-19, bon nombre d'entreprises ont commencé à opérer en ligne. Et d'ailleurs, il y a certaines entreprises qui se sont créées à cette époque-là et en ligne. Et s'il y a une restriction d'Internet, ceci donc affectera évidemment l'utilisation d'Internet, l'expérience de l'internaute, et ceci risque de décourager les parties prenantes qui essayent justement de mieux. Et donc, nous voulons que les différentes institutions justement saisissent les bienfaits de l'Internet et de telles restrictions ou coupures ou autres pourraient justement mettre à mal les efforts qui ont été déployés, notamment dans le secteur de l'éducation et de tout ce qui peut être accompli grâce à Internet. Et surtout, d'anéantir nos efforts. Concernant la deuxième question, il s'agit essentiellement de l'influence politique donc de notre pays qui pourrait provoquer cette fragmentation. Tout est un stade où le gouvernement a voulu appliquer cette censure sur l'utilisation d'Internet et une censure de certains réseaux sociaux. Et nous avons prévu d'obtenir des élections prochainement et le gouvernement cherche déjà de s'accaparer le contrôle de l'Internet pour procéder à cette censure, également restreindre l'accès à certains contenus. J'espère que ceci ne se produira pas, parce que nous avons des élections prévues dans quelques mois, mais je pense que c'est ce qui pourrait affecter, ou du moins pousser à une fragmentation de l'Internet ou les autos. Merci. Je suis désolée donc d'aller à la hâte, mais nous avons peu de temps à notre disposition. Donc, je demanderai aux prochains intervenants d'être le plus bref possible afin que les autres puissent également s'exprimer. Maud, c'est à vous. Je pense que c'est à moi. Très bien. Donc, la fragmentation de l'Internet pourrait affecter la façon dont Internet fonctionne et ceci serait évidemment un inconvénient. Maintenant, concernant les activités, ou du moins ce qui pourrait pousser à une fragmentation de l'Internet dans notre pays. Je pense que l'aspect majeur qui pourrait donc mettre en péril cette souveraineté de l'Internet est donc lié aux élections, car c'est une période sensible durant laquelle les gouvernements veulent contrôler la circulation de certaines informations. Je pense qu'il y aura forcément des perturbations de l'Internet et de la communication de façon générale pendant les élections. Donc, il s'agit d'éviter, de freiner la transmission de certaines informations transmises aux citoyens. Ensuite, ceci pourrait affecter également l'interopérabilité entre les entreprises. Nous savons qu'Internet donc facilite bon nombre d'activités commerciales et donc ces perturbations, évidemment, risquent de perturber ces activités. Merci. Veuillez éteindre votre micro si vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît. Je suis désolée donc d'interrompre cette discussion, mais il nous reste très peu de temps. Veuillez prendre une minute maximum pour votre intervention. Merci. Ernest, c'est à vous. Merci. Donc, la zombie n'a pas encore enclenché sa transformation numérique, mais concernant la fragmentation de l'Internet, ceci risque de nous faire régresser de 8 ans. Nous avons donc dans notre pays une certaine communauté, entreprises qui dépendent d'Internet et d'autre part, des citoyens qui n'ont jamais entendu parler d'Internet. Donc, il y aura un véritable impact au niveau des données. Nous savons que les données constituent une ressource précieuse. Ceux qui disposent des données peuvent contrôler votre avenir. Et donc, je pense qu'il a été déconnecté. Oui, Harold, est-ce que vous pouvez y aller, s'il vous plaît? C'est à vous, Harold.
Oui, merci. Alors, aujourd'hui, au Bénin, il faut reconnaître que nous avons amorcé depuis plus de 10 ans déjà une grande des grandes réformes en termes numériques et d'Internet. Et cela a permis un développement économique sous grande échelle. Alors, depuis plusieurs années déjà, il y a eu une instauration d'un certain nombre de politiques publiques de développement du numérique. Nous avons également eu des entreprises qui ont pu se développer au niveau local avec Internet et qui ont permis de pouvoir engranger des ressources, que ce soit locales, internationales. Donc, nous avons une certaine interopérabilité qui a été remarquée. Des entreprises qui travaillent avec différents fournisseurs, différents employés qui sont à l'extérieur et de façon inverse. Aujourd'hui, si nous arrivons à une fracture d'Internet, nous allons redresser carrément de plusieurs années, de plus d'une décennie, et nous aurons différents problèmes économiques qui seront certainement marqués et qui pourront agir notamment sur ces différentes politiques qui sont déjà très bien. Et c'est l'un des objectifs que nous essayons de poursuivre, justement, de pouvoir mettre en avant les conséquences sur une fracture, tout ce qui pourrait quand même, ce qui seront à refaire et qui pourront nous pénaliser.
Emmanuel, oui, merci. Donc, quelle est la menace actuelle à l'Internet au Nigeria? Ceci touche essentiellement le gouvernement. Il est important de voir quel sera l'impact sur la communauté. L'année dernière, il y a eu donc cette interdiction de Twitter et donc une utilisation accrue de VPN pour avoir accès à Internet. L'autre aspect aussi est lié donc au coût élevé de l'accès à Internet qui pourrait rendre l'Internet élitiste. Ceci pourrait affecter également les entreprises et l'économie, car il y aura une perte en impôts et certaines pertes économiques aussi, donc associées à cette interruption, perturbation de l'Internet. Merci. Merci beaucoup. Pour résumer, l'impact sur l'Afrique sera très élevé et néfaste. Nous constatons d'ores et déjà ces effets et nous pensons donc que ceci mènera à la fragmentation de l'Internet. Nous avons déjà remarqué quelques signes qui nous poussent à nous inquiéter. Victor, je pense que nous devons entendre l'IA. Je vais donc accorder la parole à l'IA pour son exposé. Merci beaucoup, Dawit. Avant cela, devrions peut-être voir s'il y a quelques mains levées. Peut-être que les participants ont des questions ou souhaitent intervenir. Nous avons donc Tidjani et Jaffa. Tidjani, c'est à vous. Merci, Victor. Je suis ravie de vous voir. Victor, Christine, Joyce et David, et vous tous, vous me manquez et j'espère que nous nous verrons très bientôt. Maintenant, pour revenir à la question de la souveraineté du numérique, vous avez raison. Nous savons que l'intérêt de tout utilisateur et donc l'interopérabilité fournie par Internet, mais il y a également un autre aspect sur lequel il faut réfléchir. Pour certains, le pays même peut être mis en danger. Donc cette tendance de la souveraineté du numérique doit être préservée et l'ISOC doit faire en sorte que de telles perturbations ne se produisent pas à l'avenir. Et nous devons réfléchir à l'élaboration d'outils pour assurer la protection des données, la protection des entreprises. Merci beaucoup. Merci Tidjani. Et je suis ravie de vous voir ou du moins de vous entendre après si longtemps et j'espère également que nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Vous avez relevé donc les points pertinents. Les gouvernements et les citoyens sont inquiets. On ne dit pas que tout ce que le gouvernement fait est fait sans raison. Bien sûr que les gouvernements peuvent avoir des raisons valables. Mais dans le même temps, il faut faire le nécessaire pour ne pas fragmenter l'Internet. Il faut trouver des solutions à leurs problèmes sans pour autant fragmenter l'Internet. Binder et Jackson. Rapidement, vous avez moins d'une minute chacun. Très bien, je m'appelle Jackson. Je suis Namibien. Question rapide. Est-ce que les moteurs de recherche peuvent contribuer à la fragmentation de l'Internet? Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas. Justement, confondent Internet et Google. Et la première chose donc que les usagers feront, justement, est de faire une recherche sur Google automatiquement. Donc, je voudrais savoir si les moteurs de recherche peuvent contribuer à cette fragmentation d'Internet. Et ensuite, peut-être que l'on pourrait utiliser certains réseaux particuliers pour lutter contre la fragmentation de l'Internet. Merci. Nathalie, est-ce que vous souhaitez réagir ou j'y vais? Allez-y, Dawit. Oui, il existe des risques donc associés à la propriété, où l'on penserait, où vous pensez voir Internet, mais vous utilisez qu'une partie ou vous ne voyez qu'une partie de l'Internet, donc ceci est vrai. Donc nous avons la question de la fragmentation de l'Internet. Il s'agit de voir dans quelle mesure notre stratégie peut lutter contre cette fragmentation et dans quelle mesure nous impliquons les décisionnaires, les gouvernements. Et deuxièmement, nous avons le forum pour la gouvernance d'Internet qui devrait avoir lieu prochainement en Éthiopie. Donc, quelle stratégie allez-vous employer pour qu'il y ait un rassemblement sur cette question de la fragmentation de l'Internet? Et je m'adresse à Nathalie. Nous essayons donc de promouvoir l'utilisation de l'outil de l'évaluation de l'Internet afin donc que les gouvernements fassent ce travail de diligence raisonnable avant de prendre certaines décisions qui pourraient mettre en péril l'Internet et de mieux justement articuler leur politique pour éviter la fragmentation de l'Internet. David, est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit? Oui, juste pour compléter. Donc la défense de l'Internet est devenue notre première priorité. Donc il s'agit d'une priorité. Donc où que nous allions, quoi que nous fassions, nous parlerons toujours de l'Internet. Nous avons une session, notamment avec d'autres organisations, sur cette question, au niveau également de l'IGF d'Addis Ababa. Donc, où que nous nous rendions, nous parlerons, nous prévoyons toujours donc de parler de cette question de l'Internet. Parce que comme vous l'avez indiqué, la menace n'est pas juste d'ordre mondial, c'est également une menace au niveau local. Ça a été le cas de la Tanzanie. Donc, ceci aura un impact sur bon nombre de pays au niveau donc d'Internet Society. Nous voulons également œuvrer au niveau local.
Bonjour Victor. Ben, je voudrais juste apporter, c'est-à-dire, franchement, c'est un sujet qui doit attirer l'attention en quelque sorte de tous les Africains, parce que parler de la fragmentation de l'Internet, pour moi, c'est un peu comme ce que les Maliens sont en train de suivre un peu. Et ils subissent un embargo de la CEDEAO, de toute la communauté internationale. Eh bien, ils ne sont pas libres de leur mouvement, et puis qu'ils soient économiques, qu'ils soient en tout cas le mouvement des personnes physiques. Donc, Internet fragmenté, ça peut avoir quelque chose du genre, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment un grand risque pour nous, en tout cas, les internautes. Et surtout, c'est un grand défi pour nous, les défenseurs des internautes. Donc, on doit franchement réfléchir à une action commune et forte pour pouvoir apporter une réponse nette à cette question. Comme David le disait tout à l'heure, les États ou bien en tout cas ceux qui soutiennent cette façon de faire, la fragmentation, ont peut-être leurs raisons, mais cela ne peut pas être la solution idéal. Donc, nous pouvons les aider, c'est-à-dire nous devons les aider à avoir une solution autre que de fragmenter ou de morceler Internet. Donc, du coup, nous nous rendons disponibles, c'est-à-dire à l'utile, pour qu'on puisse ensemble travailler à apporter une réponse à ce sujet. Merci bien.
Merci beaucoup, Tijani. Sensi.
Un moment. Donc, nous avons Hadji.
Merci, David. Merci, Victor. Et bonjour, tout le monde. C'est toujours un plaisir de se parler ou bien de se voir. Donc, très rapidement, je pense qu'avant Covid, permettez-moi toujours de parler de Covid-19. Avant Covid-19, peut-être il y a certains responsables qui avaient raison de couper Internet parce que pour eux, à un moment donné, Internet n'était pas utile. Mais après Covid et pendant Covid, lui a démontré qu'Internet vraiment a joué un rôle capital sur notre vie. Je pense que maintenant, il est temps de changer de stratégie pour expliquer ou bien pour expliquer justement à nos responsables, surtout les responsables africains, qu'Internet ce n'est pas Internet n'est pas un luxe. Internet vraiment est nécessaire pour notre vie quotidienne. Donc je pense que à un moment donné, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas la solution idéale, mais je pense qu'il faudrait pas que nous continuions à jouer à l'offense, à la défensive. À un moment donné, il faut que nous jouions à l'offensive. Nous savons très bien qu'à chaque fois que dans certains pays, à chaque fois qu'il y a par exemple des élections ou bien je ne sais pas quoi, il y a toujours des coupures. Ben je pense qu'il faut que nous allions à l'offensive actuellement. Donc conjuguons nos efforts et puis apporter des solutions dans ce sens. C'est vrai que peut-être je n'ai pas la solution idéale tout de suite, mais avec une petite réflexion, peut-être on pourra aboutir à quelque chose de concret pour ne pas subir à chaque fois justement ces interruptions. Merci beaucoup.
Merci, Hadji. Tout à fait, je pense qu'il faut...
Nous avons besoin d'être actifs et non pas attendre passivement que les choses se déroulent par elles-mêmes. Donc, nous avons Pokeina. C'est à vous, s'il vous plaît. Merci. Je voulais simplement soulever la question des sociétés de médias sociaux et le rôle qu'elles ont par rapport à la souveraineté numérique. Et si les panélistes veulent bien nous dire un mot sur la manière dont les médias sociaux ont un impact sur la souveraineté numérique, les précédents qui sont créés, par exemple le rôle de Facebook pendant le printemps arabe, comment ces médias sociaux amènent les autorités à prendre des décisions malheureuses telles que couper l'Internet. Merci. Avec ces quelques interventions, je suis obligé d'arrêter notre interaction. Malheureusement, malgré le peu de quelques temps que nous avons pris en plus de la session, nous ne pouvons aller plus loin. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais malheureusement, je ne peux vous garder plus longtemps. Donc, je vais donner la parole à l'IA pour que nous l'écoutions parce qu'elle a des choses à nous dire qui sont de grande importance. Bonjour, bonjour. C'est très important de voir que nous avons des participants en nombre. Je disais bonjour à tous. Merci d'être resté plus longtemps que prévu. Ce que je voudrais très rapidement aborder, ce sont cinq mesures que nous pourrons prendre pour lutter contre le morcellement de l'Internet. Victor, si vous voulez bien que je partage mon écran. Si nous nous posons la question de comment nous pouvons commencer à agir, je pourrais suggérer cinq petits pas que nous pouvons entreprendre dès maintenant. Beaucoup de personnes ont abordé la question de l'évaluation d'impact en utilisant la boîte à outils de l'évaluation de l'impact. J'ai vu par exemple que l'Internet, que le Nigeria et son équipe d'Emmanuel ont fait un très beau travail là-dessus. Vous pouvez aussi poser la question aux décideurs, aux autorités publiques sur la manière de protéger l'Internet et comment le faire. Vous pouvez partager aussi les documents dont nous avons mis à disposition sur cet aspect. C'est le bon moment de faire faire ce genre de mesures. Troisième point, je pense que c'est l'innovation. Ce sont de nouvelles idées, de nouvelles approches que nous pouvons suggérer, de nouvelles voies pour construire l'Internet, pour le sécuriser, pour mettre en place de nouvelles solutions. Beaucoup d'entre vous être actifs sur la plateforme de solutions qui s'appelle Connect. Je voudrais vous encourager à continuer puisque ce sont sur ces plateformes que nous allons chercher des solutions. Vous pouvez aussi continuer à renforcer vos compétences, prendre un cours, vous porter candidat pour une bourse d'études, poser des questions, continuer à renforcer vos savoir-faire, vos compétences. Ensuite, on peut aussi continuer à plaider à travers les médias sociaux et renforcer le mouvement. Ce sont quelques points que je veux toucher comme point de départ, lutter contre le morcellement de l'Internet. Je vous remercie. J'espère vous voir rapidement. Merci, Liera. Je pense que notre discussion a été très interactive. Je ne sais pas si David, vous voulez ajouter un mot. Très bien résumé la chose. Merci, Lia, d'avoir fait mention de notre communauté Connect. La plupart d'entre nous pouvons continuer à discuter ces sujets dans ces communautés, continuer à réfléchir sur les stratégies à venir pour la protection de l'Internet. Nous avons encore un point de l'ordre du jour aujourd'hui. Ça, vous savez, nous sommes un groupe d'intérêt spécial. Tous les deux ans, nous élaborons un plan d'action et nous lançons un appel à la communauté pour qu'ils nous suggèrent des sujets de réflexion sur lesquels nous pouvons travailler en tant que communauté. C'est pourquoi nous nous appelons nous-mêmes groupe d'intérêt spécial. C'est pourquoi je voudrais que nous prenions simplement quelques minutes pour que nous partagions ce que nous avons comme suggestion en tant que groupe d'intérêt spécial, en tant que contributeur, pour pouvoir partager avec d'autres membres qui ont le même type de préoccupation. Merci, Victor. Ceux qui n'avaient pas participé à l'événement de l'année dernière, nous avons un nouveau groupe modèle qui inclut deux types. Premièrement, nous avons les groupes permanents. Ce sont des thèmes beaucoup plus permanents et qui c'est des groupes qui restent actifs tant que nous pouvons apporter de la valeur ajoutée. Deuxième point, ce sont des groupes d'intérêts spéciaux. Ce sont des groupes qui se mettent en place par thème, des thèmes qui sont choisis par les communautés. Donc, ce sont des groupes spéciaux. Les groupes permanents, eux, ont une nature mondiale. Tous ceux qui sont membres d'une section, qui sont membres de cette communauté, peuvent participer à ces groupes. Cette année, les groupes permanents et les groupes spéciaux ont conduit leurs élections. Et ceux qui ont été élus pour planifier leur année sont au travail. Dans le troisième trimestre, ils vont commencer la mise en œuvre de ces plans très rapidement. Pour vous donner une idée de ce que font ces groupes, les trois groupes permanents que nous avons aujourd'hui sont sur l'accessibilité, groupe sur la stabilité qui promeuvent l'inclusion numérique des personnes qui vivent avec un handicap en appuyant les stratégies, les mécanismes qui le permettent, qui permettent donc de jouir de nos droits numériques. L'autre groupe travaille sur l'inclusivité de l'Internet, accessible et sûr, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les personnes avec des genres divers et pour mener le plaidoyer en leur faveur, en incluant les groupes d'intérêt. Donc, troisième groupe permanent, c'est le groupe des jeunes de l'ISOC qui promeut l'implication des jeunes dans les différentes régions et intégrer ces jeunes dans les discussions plus générales d'Internet et avoir un accès plus équitable pour les jeunes en termes d'accès à l'Internet. Donc, nous avons cinq groupes maintenant spéciaux accès abordable de l'Internet, cybersécurité, Internet pour l'éducation. Nous avons aussi le groupe qui travaille sur l'Internet des choses et la sécurité numérique en ligne. Donc, je partagerai les liens pour que vous vous informiez sur ces groupes sujets qu'abordent ces groupes d'intérêt de spéciaux. Par exemple, le groupe d'intérêt pour l'accès abordable cherche à établir des infrastructures, des politiques disponibilité, mais aussi des réglementations qui le permettent. Qui permettent cet accès abordable. La cybersécurité est bien sûr comme un accès sécurisé à tous. Le groupe pour l'éducation est un groupe qui travaille sur l'éducation et tout en renforçant la sécurité de l'Internet. L'Internet pour l'éducation veut aller vers un monde où l'accès à l'Internet est inclusif avec une possibilité d'apprendre tout au long de la vie de manière inclusive. Un autre groupe est l'Internet des objets où faire en sorte de mettre en place des formations sur ces sujets en collaboration. L'Internet entre les humains, petit à petit, se transforme en Internet entre objets. Et il faut le prendre en compte. La sécurité en ligne est un groupe qui travaille sur les compétences et les savoir-faire à apporter aux usagers pour rester en sécurité en ligne. Ce sont les groupes d'intérêt spéciaux. Je partagerai, comme je l'ai dit dans la messagerie, les liens qui permettraient de s'informer un peu plus. Kyle est la personne en charge de ces groupes d'intérêt spéciaux. Je vais partager aussi ses contacts et ses emails. Vous pourrez le contacter si vous voulez vous intéresser à un groupe ou à un autre. Je vous remercie. Merci beaucoup de vous avoir apprécié, Anna. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous. Merci à tous qui êtes restés avec nous. Nous aurons d'autres opportunités aussi de dialogue que je vais présenter à l'écran. Les prochaines interactions sont ici projetées. Merci de les noter et ce sera l'occasion de nous retrouver en ligne. L'événement suivant que nous tiendrons, c'est la semaine de la communauté de 2022. Vous savez que nous avons eu une telle semaine la semaine de l'année dernière, le 6 et le 7 septembre. Il est prévu de le tenir. Nous aurons des informations que nous allons partager en ligne pour l'enregistrement, nous allons célébrer pendant cette année le groupe la semaine des communautés. Ensuite, vous le savez, l'ISOC ou la Société de l'Internet va célébrer son 30e anniversaire et ce sera une opportunité de cette célébration pour en ligne célébrer cet anniversaire. Le programme de 2022 sur les fondamentaux de l'ISOC va se tenir cette année de même que l'année dernière. C'est un programme qui cherche à dispenser des connaissances fondamentales sur Internet. L'enregistrement a été clos le 30 juin, mais la demande étant forte, nous allons continuer à enregistrer. Vous avez la plateforme de e-learning ici, que vous pouvez trouver sur le lien partagé. L'idée ici, c'est d'essayer d'en apprendre plus sur ces questions et de partager au niveau local ce que vous avez appris avec vos communautés pour inspirer d'autres à participer à de tels programmes. Je dois faire mention aussi d'un événement tenu par l'Union des télécommunications internationales, l'UIT, qui tiendra une réunion certainement au mois de septembre. Nous aurons certainement un événement communautaire sur cette question tout spécialement. Ce sera l'occasion d'approcher les décideurs politiques et de discuter des sujets d'intérêt et nous pourrons réfléchir ensemble de la manière d'approcher les représentants des pays auprès de l'IUT et de parler avec eux des politiques qui ont un impact négatif de l'Internet. Et rester Restez à l'écoute. Nous vous enverrons des invitations pour un tel événement de qui préparera cette conférence. Merci à toutes les communautés. Merci aux membres de les communautés. Merci à tous les participants, Etablon, Ernest et Harold, qui avaient avec Emmanuel et d'autres partagé vos réflexions. Merci, chers participants, d'avoir pris un peu plus de temps. Nous avons une autre discussion de ceux qui organisent de telles rencontres. À tous les autres, je vous dis au revoir. Vous êtes libre de quitter cet événement virtuel. Merci à tous ceux qui avaient permis d'organiser et qui avaient pris le temps de rester avec nous pendant 2 heures pratiquement. J'espère que assez rapidement, dans le futur, nous pourrons nous rencontrer physiquement. Je vous remercie.